Il y a un rapport qui est apparu récemment, qui est consternant, qui s'intitule Consentement libre et éclairé, les stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuits au Québec. J'ai pris connaissance de ce rapport qui est vraiment c'est troublant, là. Et on a au bout du fil l'une des personnes qui a pondu cette étude, cette recherche, Suzy Basile, professeure titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones. Vous êtes du côté de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Madame Basile, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Donc, avec une étudiante, vous n'avez pas fait ça seule. Vous étiez avec Madame Patricia Bouchard qui vous a accompagnée dans ce processus-là. Écoutez, la première question est, c'est très troublant. Vous avez fouillé, vous avez documenté, vous avez parlé avec de nombreuses femmes ici de Premières Nations. J'imagine que, parce que ce travail-là était nécessaire, on a vu ce qui s'est passé en Saskatchewan, donc de pouvoir documenter ça, c'est un mal nécessaire, si je peux le dire ainsi ici, mais il fallait le faire, le travail, là.
Ben, tout à fait. Vous avez la bonne expression, là, un mal nécessaire, sujet très difficile, mais qu'il fallait aborder de front. En effet, on savait que le sujet était quand même bien documenté dans le reste du Canada, dans l'ensemble des provinces et des territoires. Il a été démontré que les femmes autochtones ont subi des stérilisations imposées. Maintenant, nous ne savions pas l'état des lieux au Québec, bien que moi-même et des collègues avions des témoignages, savions que certaines femmes avaient fait face à cette situation-là. Donc, suite à une conférence canadienne sur le sujet en 2020, juste avant la pandémie, nous avons à ce moment-là exprimé le souhait, le besoin de faire quelque chose pour la situation au Québec. C'est qu'avec des collègues, et on est deux rédactrices, mais il y avait quand même 9 organismes autochtones qui nous accompagnaient là-dedans. On a lancé cette recherche-là là, dans nos réseaux respectifs et dans l'ensemble des communautés autochtones du Québec là, à partir du printemps 2021.
On a la question du racisme systémique qui est en toile de fond. Le Québec qui refuse d'accepter ce mot-là, qui refuse ce terme-là. Pourtant, c'est ce qui dépeint, comme je disais, c'est la toile de fond, c'est ce qui dépeint tout ce rapport-là. Ça vient du racisme systémique sur les enjeux de langue, mais tout ça, finalement, réfère au racisme systémique. Difficile d'en douter maintenant, là.
Ben, c'est un des constats auxquels on arrive à la fin de notre analyse des données, de voir des femmes de différentes nations, de différentes régions du Québec avoir vécu pratiquement la même chose, rencontrer la même forme de mépris, si vous voulez, et de discrimination dans les propos qu'elles reçoivent ou la manière dont elles sont traitées. Ça nous laisse comprendre, ça nous laisse voir qu'il y aurait du racisme systémique dans les services de santé au Québec.
Et c'est une violence inouïe, c'est une violence parfois verbale, parfois psychologique, parfois physique ou un mélange de ces trois violences. Ces femmes-là, c'est des femmes qui ont vécu, bon, sur le champ, même avant l'opération ou avant, parce qu'on parle d'avortement forcé, de justement stérilisation, qui ont été aussi, on dit pas forcé, on dit, c'est le mot,
imposé.
C'est imposé. Donc, il y a plusieurs...
On a utilisé le terme imposé ici, oui.
C'est ça. Donc, plusieurs violences, mais c'est des gens qui ont vécu donc des violences avant de subir l'opération, durant l'opération, mais qui ont continué à vivre avec les séquelles de tout ça.
Ben en effet, dans plusieurs des témoignages qu'on a, ce sont des femmes qui ont fait face à d'autres formes de trauma aussi dans leur vie. Et cette forme-là, qui touche leur santé reproductive, s'ajoute à la trop longue liste parfois. Puis en effet, à entendre leurs témoignages, on pouvait voir qu'elles avaient vécu de différentes formes de violence, mais aussi qu'elles avaient vécu tout cela dans le silence. Plusieurs d'entre elles ne savaient pas qu'elles n'étaient pas seules qui avaient vécu ça, ne savaient pas l'ampleur aussi ou réalisaient mal l'ampleur de ce qui leur était arrivé. C'est en nous parlant qu'elles se rendaient compte aussi que leur vécu, là, que leur expérience n'était pas normale.
Ouais.
Puis dans d'autres cas, faut aussi comprendre que certaines ont su qu'elles avaient été ligaturées beaucoup plus tard.
Effectivement.
On ne leur a pas dit au moment où on a fait la procédure et elles vont l'apprendre des années plus tard en allant consulter parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'autres enfants. Et là, vont se faire dire, mais madame, vous êtes déjà ligaturée, puis elles ne le savaient pas. Donc, le temps de réaliser tout ça, le temps de digérer tout ça, de vivre avec ça et d'avoir aussi l'audace de nous en parler parce que plusieurs d'entre elles n'avaient jamais parlé de cette situation-là à personne. Ça fait qu'on a pu documenter ces situations-là.
Il y a même un commentaire d'une femme qui dit qu'elle s'est fait prescrire la pilule contraceptive malgré la ligature des trompes pour comme camoufler tout ça. Là. C'est épouvantable.
Ben, c'est ça, c'est troublant. Puis elle-même se demandait là, pourquoi on était allé jusqu'à lui prescrire ça, en effet.
Il y a des constats qui se dégagent. On a quatre grands constats qui se dégagent de cette étude-là.
Bien, le premier, c'est la mise à mal du consentement. Hein. On voit dans plusieurs des exemples qu'aucun consentement n'a été obtenu ou encore un consentement mal compris, mal expliqué. Et ensuite de cela, l'âge des personnes concernées, puis les circonstances dans lesquelles ça a pu se produire, c'est assez troublant quand on regarde là, que la plupart étaient dans la vingtaine ou dans la jeune trentaine. C'est l'âge idéal pour recréer. Donc, ça c'est ça.
Il y a une méfiance.
Particulièrement.
Une méfiance envers le système de santé qui s'est instauré aussi, puis on le comprend.
Oui, tout à fait. J'allais le passer, celui-là. Oui, une méfiance, une crainte, et c'est encore le cas aujourd'hui. Plusieurs nous disaient qu'elles évitaient de consulter ou d'avoir des suivis de grossesse. Elles ont évité dans le passé là, d'avoir des suivis de grossesse. Ou encore certains membres de leur famille vont éviter aussi les soins de santé parce qu'elles n'ont pas confiance.
Bien, on peut comprendre à certains égards. Écoutez, là, il y a une dame qui, dans le témoignage, c'était quoi? C'est quelque chose aux amygdales. Elle devait subir une opération aux amygdales et s'est faite ligaturer les trompes.
Mm-hmm. C'est un autre exemple troublant.
C'est épouvantable. Puis je parlais tout à l'heure, je l'ai abordé d'entrée de jeu. Je sais que vous êtes pressé, je vais vous laisser dans un instant, Mme Basile, mais quand on parle du racisme systémique, ça fait partie, en fait, c'est la dernière des recommandations qui figurent dans ce rapport-là. Mais j'ai l'impression que les 30 autres recommandations ne pourront ou vont difficilement pouvoir être mises en application si on ne reconnaît pas le racisme systémique.
En effet, c'est une bonne observation. Je pense que tout part de là. Tout devrait être appuyé là, sur la reconnaissance qu'il y a un problème à cet égard-là, puis qu'il y a en effet du racisme systémique. Alors, rendu là, je laisse les politiciens faire leur boulot. Moi, je vais continuer de faire la recherche.
Donc, c'est quoi l'avis que vous espérez pour ce rapport-là, la suite des choses?
Bien, évidemment, la mise en œuvre des recommandations, hein, c'est ce qu'on souhaite. Et parmi ces recommandations-là, il y a également la possibilité de poursuivre cette recherche-là, de faire une phase 2, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas pu nous parler, il y a des communautés que nous n'avons pas pu visiter malgré les invitations reçues en raison de la COVID. Ensuite de ça, on sait qu'il y a des personnes qui ont changé d'idée à la dernière minute, qui ne se sentaient pas prêtes à parler, peut-être le seraient-elles aujourd'hui. On sait aussi que, c'est ça, il y a des gens qui réfléchissent à l'heure où on se parle pour s'exprimer sur le sujet aussi.
Et là, on verra. En terminant, on parle ici des femmes autochtones et inuites. Quand on parle de racisme systémique, j'imagine que ça dépasse les frontières des gens issus des Premières Nations. Est-ce qu'il y a d'autres gens racisés qui, d'après vous, pourraient avoir vécu les mêmes traitements? Parce qu'on voit que la barrière de la langue est un des obstacles présents. Il n'y a pas que les femmes autochtones qui peuvent avoir des barrières de langue, là.
Tout à fait. Oui, nous savons qu'il y a des femmes racisées qui ont fait face à des expériences similaires à cela. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse se penche également sur ce sujet-là. Il y avait tout récemment un colloque sur le sujet où il y avait le partage là, de femmes racisées qui ont vécu la même chose au Québec. Donc non, les femmes autochtones ne sont pas seules dans ce constat.
Cette horreur-là. Jusqu'en 2019, hein, on le rappelle que ça s'est produit au Québec. Quand j'ai vu ça, ça m'a scié les jambes. Je comprends pas qu'en Québec, qu'on peut faire ça au Québec. En tout cas, qu'on a pu le faire, peu importe l'époque, mais encore davantage en 2019. Mais bref, ça porte à réfléchir. Et comme vous le disiez, on espère que nos politiciens reprendront la balle. Au bon, Madame Suzy Bellil, vous êtes professeure à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Merci d'avoir partagé le fruit de vos recherches avec nous aujourd'hui.
Merci bien pour votre écoute.